Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la littérature. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Audio et Boris Pino. Prise de son assurée ce soir par Benjamin Vignal. Réalisation signée Assia Ralid. Ce soir, Florent Georgesco et Elisabeth Philippe se font face à notre affiche, dans quelle langue est-ce que je rêve, Elena Lapine, chez L'Olivier. Je me tuerai pour vous, recueil de nouvelles inédites de Francis Scott Fitzgerald, publié chez Grasset et Fayard, et L'Orange mécanique en pavillon poche, chez Robert Laffont, le livre d'Anthony Burgess. Vers 21h20, Xavier Martinet nous invitera à le suivre dans le petit salon pour parler des revendications des traducteurs et des correcteurs. Et puis bien sûr, il y aura encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour l'exposition Magnum Analog Recovery à voir jusqu'au 27 août au Bal à Paris. Et nous ouvrons cette émission avec le nouveau livre d'Elena Lapine, dont la vie ressemble tant à un roman qu'elle constitue en effet la trame de ce livre intitulé « Dans quelle langue est-ce que je rêve ?» publié aux éditions de L'Olivier dans une traduction de Mathieu Dumont. Vie qui ressemble tant à un roman, je suis presque sur la conclusion de ce livre, qu'on n'ira pas à la conclusion, à l'antenne peut-être pas. En tout cas, dans quelle langue est-ce que je rêve? La question mérite d'être posée quand on sait que Elena Lapine est née à Moscou, qu'elle a passé son enfance à Prague, puis à Hambourg, avant d'émigrer en Israël, puis au Canada, aux États-Unis. Aujourd'hui, elle vit à Londres. C'est une journaliste qui collabore notamment au Guardian, qui a reçu en 2002 le coup de fil d'un homme se prétendant être son oncle vivant à Moscou, lui annonçant que celui qu'elle a toujours pensé être son père ne l'était pas.
Shall I say, is calling? And who, in her lonely slip, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blunt, who by avalanche, who by powder, for his greed, who for his hunger, and who shall I say is calling? And who by brave ascent, who by accident, who in solitude, who in this mirror, his latest command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who shall I say is calling?
On avait un peu de mal, ou j'avais un peu de mal, je l'assume, à interrompre cette chanson de Leonard Cohen. Mais venons-en tout de même à Elena Lapine. Dans quelle langue est-ce que je rêve? Traduction Mathieu Dumont, C'est aux éditions de l'Olivier pour cette édition française. Florent Georgescu, je vois prêt à débuter.
Bien, alors débutons.
Non, mais cette position caractéristique, légèrement penchée en avant, les mains sur les cuisses. Oui.
Non, sur les
genoux. La bête dans la jungle. Allez-y, Florent.
Alors oui, je vais d'accord mordre un tout petit peu pour commencer.
C'est vrai ?
Oui, mais légèrement.
Comme je vous connais bien.
Mais pas Elena Lapine, ce livre est merveilleux, mais il faut, pour bien le lire, ne pas tenir compte de la quatrième de couverture qui trompe sur la nature du livre.
On n'a pas fait. Vous étiez là le soir où on a fait le petit salon sur les quatrièmes de couverture,
non,
que
hélas.
Je ne lis jamais.
Hélas.
Et je recommande à quiconque de ne jamais lire les quatrièmes de couverture avant d'avoir terminé un livre.
Je ne partage pas entièrement votre avis.
Moi, je partage totalement mon avis.
Mais oui, je sais. Mais
qu'est-ce qu'il y a sur cette quatrième couverture, on va pas le dire.
Je vous donnerai totalement raison parce que on connaît d'Elena Lapine, notamment en France, L'homme qui avait deux têtes, cette enquête extraordinaire sur Vikhornitsky, le faussaire, l'auteur des fragments qui se faisait passer pour un enfant déporté. Tout était faux, il n'était même pas juif. Elle avait fait une enquête absolument extraordinaire, on la connaît à travers ça. Et donc la quatrième de couverture la présente au public, présente ce livre au public français comme une enquête. En orientant tout sur la découverte qu'elle fait un jour, et en effet elle commence son livre par ça, de la vraie identité de son père, on présente ça comme si c'était une enquête sur cette découverte, mais pas du tout.
Alors qu'à la troisième page,
le sous-titre, à la troisième page, on a la naissance d'une enfant et nous avons ensuite ce qui suit, c'est-à-dire une vie. Ce livre est un livre de mémoire et
mémoire.
Et c'est d'ailleurs son sous-titre, en effet, dans l'édition originale. Ce sont les mémoires d'Elena Lapine et il se trouve que c'est absolument passionnant. On n'a pas besoin d'imaginer autre chose pour se passionner pour ce livre. Voilà, c'est la seule réserve que je ferai.
Ça va, c'est pas énorme.
Vous voyez, c'est une morsure légère. D'autant que elle joue elle-même avec ça, avec cette règle qu'elle énonce au début du livre, qu'on surnomme la règle du pistolet de Tchekhov.
Très belle reproduction, là aussi, dans les toutes premières pages. Double page, très belle.
Pistolet
accroché au mur du salon.
Voilà. C'est le pistolet de famille.
Ouais.
Mais le pistolet du livre, c'est précisément cette révélation qui lui tombe un jour sur la tête. Et donc, elle cite la règle émise par Tchekhov, considérée en tout cas comme une règle depuis Tchekhov. Si, disait Tchekhov, dans le premier acte, vous indiquez qu'un pistolet est accroché au mur, alors il faut qu'à l'acte suivant, sa détente soit pressée. Mais en réalité, elle installe d'emblée ce choc de ce coup de fil qu'elle reçoit un soir, en effet, pour lui dire que son père n'est pas son père. Et elle n'y revient qu'à la fin. Et le bout d'enquête qu'elle aura fait sur ce sujet-là, c'est-à-dire sur son autre famille, fait l'objet de quelques chapitres à la fin du livre. Le reste n'a pas besoin de ça, n'a pas besoin de l'attente du moment où on presse sur la détente pour passionner, parce que c'est une histoire, en effet, extrêmement romanesque, qui est celle de sa vie, mais qui est surtout, et j'avais particulièrement envie d'en parler en ce moment, qui est surtout un merveilleux, un extraordinaire, une sorte de conte de fées sur le cosmopolitisme.
Sur la migration.
Sur la migration, sur la multiplicité des identités, sur ce qu'est réellement l'identité, c'est-à-dire ce qu'il y a de brisé dans l'identité, et ce qu'il y a, encore une fois, d'un conte, d'une merveilleuse histoire dans le mouvement perpétuel des identités, ce qu'elle raconte avec une grâce, une légèreté, une drôlerie aussi, une drôlerie légère. Tout est très léger dans l'écriture de Lapine. C'est ce qui avait aussi fait tout le charme de son enquête sur Vikhornitsky, y compris sur les sujets les plus graves. Et Dieu sait que dans ce livre-ci aussi, beaucoup, beaucoup de sujets sont graves, puisqu'on a affaire en permanence au tragique de l'histoire et à des gens qui sont promenés d'un pays et d'un continent à l'autre, notamment poussés par ces tragédies. Mais il y a dans tout cela une légèreté, une grâce, qui fait vraiment de ce livre une espèce de vade-mecum, de parfait manuel du cosmopolitisme, qui alors que dans la campagne électorale, on a cessé d'entendre utiliser désormais ce mot de cosmopolitisme, sans même avoir besoin de le qualifier comme une espèce de mot diabolique. Il suffit de dire de certains, il est cosmopolite, pour qu'aujourd'hui en France, tout le monde se dresse et s'énerve, à droite comme à gauche. Eh bien, allez voir ça, allez voir de ce côté-là, allez voir ce qu'il y a de miracle dans une vie capable de se recomposer au fil de l'histoire, et on en reparlera.
Mais on en reparlera juste en après que Elisabeth Philippe ait donné son premier sentiment ou sa première entrée dans le livre d'Hélène Lapine.
Oui, alors j'étais très heureuse de me plonger dans cette histoire effectivement très mouvante, mobile, où on passe de la Russie à la Tchécoslovaquie, à l'Allemagne, à Israël, en passant jusqu'aux États-Unis et l'Angleterre, tous ces voyages à travers la vie de ce personnage. Elle le dit d'ailleurs à la fin du livre, elle dit « J'ai voulu faire le récit de ma vie en suivant les lignes de faille de ces langues. » Et donc, chaque nouvelle langue que cet enfant apprend, donc ce personnage, Hélène Lapine, va acquérir au fil de sa vie, ouvre sur un nouveau monde et ouvre sur un nouveau, une nouvelle facette de son identité. On voyage avec elle dans cette progression, et c'est aussi un voyage vers l'écriture, puisque avec toutes ces langues, elle avait écrit effectivement ce livre sur Vilkomirski, le titre était « L'homme qui avait deux têtes », elle c'est la femme qui avait cinq langues, puisqu'elle parle le russe, le tchèque, l'allemand, l'hébreu, le français, il y a des pages d'ailleurs assez drôles.
Et l'anglaise qui fera six, non?
Alors peut-être qu'elle a exclu le français parce qu'elle l'a appris assez jeune.
Oui, je pense que par modestie, elle ne sait pas.
Voilà, il y a des pages assez drôles.
Elle parle plus de cinq langues, mais elle parle couramment et écrit dans cinq langues.
Oui, ce qui est pas mal déjà.
Elle n'écrit pas en français.
Pas mal. Voilà. Et il y a toute cette progression où elle explique que pendant un temps, elle a toujours eu cet amour des mots et elle a vécu au sein d'une famille qui a toujours eu cet amour des mots. On voit la liste des premiers mots russes qu'elle apprend dressés par son grand-père. La mère qui, à Prague, avait acheté un carnet dans lequel toute la famille pouvait écrire les événements de la journée dans une espèce de journal de la famille, de carnet de bord de la famille. Donc l'amour des mots a toujours été très présent, mais à force de posséder autant de langues, elle s'est dit à un moment qu'elle le dit d'ailleurs, j'étais prise entre l'allemand et l'hébreu et je ne savais pas, prise dans cet étau-là, dans quelle langue je pouvais écrire. Et la découverte de l'anglais, notamment du livre de Alfred Hayes, Une jolie fille comme ça, la simplicité de l'anglais va lui permettre, elle va se sentir autorisée à écrire. Et moi, ce que je ne savais pas, c'est qu'Hélène Lapine est la sœur d'un auteur que j'aime énormément, Maxime Biller. Je ne sais pas si on dit Biller ou Biller, je n'ai pas le...
Bah, comme ça, vous dites les deux, c'est très bien.
Voilà, j'espère que quelqu'un nous corrigera, me corrigera sur la prononciation, j'y compte bien. Donc, un auteur qui, lui, écrit en allemand. Elle parle beaucoup de son frère dans ce livre, lui a choisi la langue allemande et il a notamment écrit Le Juif de service où il explique en gros ce que c'est que d'être juif en Allemagne après le Troisième Reich, après Auschwitz et comment écrire dans cette langue. Et bon, tout ce que raconte Hélène Lapine est passionnant. Il y a effectivement cette légèreté, que vous avez pointé, Florent, qui rend toute cette multiplicité de récits, parce que c'est quand même très très riche, très très dense, tous ces voyages, ces allers-retours, tout ça, elle le rend très digeste par cette écriture assez simple. Mais j'aurais quand même une petite réserve, c'est sur la construction, puisqu'elle parle souvent d'un puzzle. Donc effectivement, elle dit qu'elle mène l'enquête pour essayer de recomposer ce puzzle, de retrouver toutes les pièces. Moi, je trouve le puzzle au bout du compte, reste assez éparpillé.
Bon, on a toutes les pièces, mais...
On a toutes les pièces, mais je trouve pas qu'elle donne vraiment un fil. Je trouve qu'il y a peut-être un problème de construction dans ce livre.
Problème d'éditeur. Si
peut-être aussi, oui, puisque alors c'est voulu. Vous avez parlé effectivement du pistolet de Tchekhov. On y a cette ce coup de théâtre.
Elle se débarrasse de la question copine.
Voilà.
Mais elle y revient après. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des passages. Elle se répète un peu. Et puis là où Maxime Biller, lui, dans Le Juif de service, justement, finalement pose les mêmes questions, la question de son identité, de la langue dans laquelle il écrit. Mais c'est conduit et guidé par cette obsession de sa judéité. Et il manque ce fil rouge chez Hélène Lapine.
Alors, c'est amusant parce que je me souviens qu'on a reproché à Maxime Biller dans Le Juif de service d'être lui-même peu uni, peu construit et un peu éparpillé. C'est peut-être aussi un trait de caractère familial. Mais en effet, lui faisait un livre sur la judéité, qui est un des thèmes de ce livre-ci, mais chez Hélène Lapine, enfin, ce livre est construit sur l'absence d'unification possible, justement. Enfin, bon, ça peut être une défausse. Je suis assez d'accord sur le fait, j'en parlais légèrement tout à l'heure avec le pistolet de Tchekhov, c'est un petit subterfuge qu'elle fait pour reporter une partie qui paraît en effet essentielle, d'où l'erreur à mon avis de la quatrième, d'une partie de la construction de ce livre. C'est un peu maladroit et en effet, au moment où elle fait cette enquête sur sa deuxième famille, sur la famille qu'elle découvre, moi en tout cas j'avais un tout petit peu tendance à lâcher, vu l'intensité de tout ce qui a précédé, ça n'a plus autant d'intérêt, bref, c'est vrai. Mais cela dit, le côté éparpillé fait partie aussi du charme pour moi de ce livre, qui justement,
c'est le sujet,
comme vous le disiez, et s'installe sur une faille, ou sur c'est une tente construite sur du sable mouvant, et il y a dans cette incapacité au fond à trouver une ligne à sa vie autre que la brisure elle-même, il y a une des forces du livre et je pense un de ses apports sur justement une question identitaire qui est chez elle absolument constante mais qui ne peut se traduire que par cet éparpillement. Il y a une scène une très belle scène qui se passe en Israël, un moment où elle est en visite en Israël, elle ne sait pas encore qu'elle va s'y installer, et elle dit que c'est un moment qu'il a décidé à choisir ce pays. Quand une vieille dame l'aborde dans la rue et s'adresse à elle en allemand, tenant une lettre à la main, pour lui dire cette lettre est en allemand, je peux pas la lire, est-ce que vous pouvez me la traduire en anglais? On est en Israël, dont la langue officielle est l'hébreu, on parle en allemand, et on suppose d'avance, dit-elle, de moi, jeune femme, que je vais être capable de passer entre toutes ces langues. Elle dit, j'ai alors commencé à sentir que je pourrais bien trouver ma place dans ce pays où l'on pouvait arriver de n'importe où et parler n'importe quelle langue, et même plusieurs. Et elle parle à un autre moment de New York. Sa première, elle va s'installer avec son mari à un moment de sa vie dans une sorte de lointaine banlieue de New York. Mais elle parle de son premier séjour et elle dit « Tout à coup, c'était une évidence pour moi, j'étais chez moi. » Et là aussi, elle était chez elle parce qu'elle était dans la ville même du cosmopolitisme. Elle dit de tous ces gens qui viennent là parce qu'ils ont mille choses à faire, ils ne font peut-être qu'y passer. Mais en y passant, on y trouve ce chez-soi qu'elle dit avoir cherché tout le long de sa vie. Elle parle beaucoup de son frère, comme vous le disiez. Ils sont arrivés, elle, adolescente, lui, enfant, en Allemagne. C'est très fascinant, ça. Son frère qui aura un autre destin, qui sera devenu un écrivain d'une autre langue, d'une autre nationalité qu'elle. Qu'elle qui dit d'ailleurs qu'elle ne pourrait pas, qu'elle n'aurait pas pu devenir un écrivain allemand, que porter l'histoire de cette langue lui était impossible. Mais justement, son frère, Maxime Piller, est un écrivain de combat, de lutte, de désaccord profond. Et au fond, il est resté là où il est resté sur une faille, mais lui, dans un sens plus volcanique. Alors qu'elle, au fond, cherche partout dans ce livre, et c'est ce qui en fait la grâce pour moi, justement l'endroit paradoxal, en équilibre instable permanent, où l'on retrouve une patrie. Et c'est au fond un livre sur la patrie, sur l'impossibilité de la patrie, sur l'art d'habiter le monde et d'y trouver le lieu qui peut nous convenir. Résultat, 20 déménagements.
Pour trouver l'Heimat.
L'Heimat. Oui, comme
ils avaient Philippe, pour finir sur.
Oui, c'est l'art d'habiter une langue aussi. Ouais. C'est vraiment. Moi, je regrette un peu. Et encore une fois, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est extrêmement riche, qui ouvre des pistes de réflexion sur différents sujets. Mais j'aurais peut-être. Je suis désolée, peut-être que moi aussi je me répète. Mais je pense que le livre aurait certainement gagné à se resserrer sur cette question de la langue. C'est évidemment le point essentiel du texte, mais c'est vraiment dans ces moments-là qu'elle extirpe les réflexions les plus intéressantes, et je regrette un peu qu'elle soit pas poussée davantage. C'est le cas au départ, et il y a une forme de délitement ensuite. J'aime vraiment beaucoup les pages sur son enfance, et il y a un début de réflexion sur, en plus, chaque langue, comme je disais au départ, ouvre sur une facette de sa personnalité. Par exemple, le tchèque, c'est une forme d'humour et d'ironie, et on le retrouve très bien la partie qui est consacrée à sa vie pragoise. Et peut-être que le livre aurait, plutôt que d'explorer toute cette... vous parlez à la fois de l'identité, de la patrie, du...
On se serait privé de beaucoup de choses.
Je ne suis pas certaine.
Par exemple, juste en un mot, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est aussi l'expérience soviétique, l'expérience du totalitarisme, qui est... Parce qu'elle est à Prague, arrivée de Moscou tout enfant, elle est à Prague, adolescente, au moment de... Enfin, en 68, au moment de l'arrivée des chars soviétiques. Elle raconte d'ailleurs comment elle a été chassée de ce pays parce que son premier pays l'avait envahi. Il y a une confusion, une collusion de pays, et elle raconte, vous parliez de l'ironie tchèque, qui est sa forme d'esprit tchèque. Elle raconte l'insouciance dans la tragédie soviétique. Elle raconte comment ses parents étaient en train de vivre, par exemple, la mort, ils n'ont jamais su où, du père de son père, déporté par les soviétiques, etc. La tragédie est absolument partout. On meurt, on disparaît, on est dans le totalitarisme. Et elle raconte le bonheur de l'enfance au milieu de ça. Elle raconte qu'il y a une sorte, justement, là aussi, d'aïmat de l'enfance, qui est une sorte d'île de bonheur et de fantaisie et de cette au milieu du chaos et de la violence historique. Et c'est ça qu'elle cherche tout le long du livre, d'où ce désordre qui, moi, me charme, parce que chercher une île, c'est forcément se laisser un peu brinque-baller par les vagues, disons.
Dans quelle langue est-ce que je rêve? C'est le titre de ce livre d'Hélène Lapine, publié aux éditions de l'Olivier, dans une traduction de Mathieu Dumont.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et à suivre dans cette dispute cosmopolite, Francis Scott Fitzgerald et Anthony Burgess. Tout d'abord, on suit Xavier Martinet dans Le Petit Salon. Bonsoir cher Xavier.
Bonsoir Arnaud.
Alors, nous n'oublions jamais les traducteurs dans cette émission. D'ailleurs, je sais que ça leur fait plaisir, mais c'est surtout pour rendre grâce à leur travail. Mais ce soir, on s'intéresse aussi, et c'est vrai qu'on en parle forcément moins dans une émission consacrée à la littérature, et pourtant, aux correcteurs, Xavier.
Les correcteurs, les traducteurs, ensemble, en fait, puisqu'ils sont environ 4000 de ces professionnels de la littérature à être affiliés aux AGSA. En tout cas, ils renouvellent en ce moment ensemble leurs appels quant à la précarisation croissante de leur métier. Ils étaient ainsi une quarantaine encore le 23 mars au Salon du Livre à Paris, a manifesté devant le stand du Syndicat National de l'Édition. Ils étaient une quinzaine en novembre lors de la remise du Goncourt devant Drouan pour chanter « Merci patron de l'édition » pour appeler à des négociations avec les éditeurs. Ce qui est en cause, notamment d'après Actualité qui cite là un collectif de travailleurs à domicile, les TAD, ce n'est pas que les demandes de traduction diminuent. Elles représentent selon Le Monde 18% des publications pour 22% du chiffre d'affaires des éditeurs. Non, c'est un problème industriel assez classique, mais qui touche maintenant l'édition, puisqu'elle externalise de plus en plus ses fonctions de correction et de traduction. Ainsi, les effectifs des services internes auraient fondu à minima de 50% en 10 ans, dit ce collectif TAD, et il poursuit, les dinosaures en poste ne peuvent pas être mis en surtravail, et alors qu'à l'inverse, il faudrait environ 6 livres par an pour vivre de son métier, explique une correctrice interviewée il y a quelques jours par Actualité. Elle explique aussi qu'elle joint les deux bouts avec les aides du Centre National du Livre et les bourses. Le résultat donc pour ces correcteurs et traducteurs, ce sont des volumes d'heures et des revenus en baisse, et je cite encore, le recours systématique au statut d'auto-entrepreneur, dit une correctrice là. Même chose du côté des traducteurs, sur le site de la Société Française des Traducteurs figure depuis quelques jours un guide sur les droits des micro-entrepreneurs. La précarisation des correcteurs se voit de plus en plus dans les grands groupes comme Albin Michel et Hachette, mais aussi au sein des petites maisons très à gauche qui brandissent le poing dès qu'il y a une cause un peu sociale, affirmait une manifestante devant Drouan. Pour les livres eux-mêmes, le risque est que la qualité se dégrade, explique Actualité, citant le roman Millennium, bien sûr, objet de remarques de lecteurs et évoquant des cadences de travail trop rapides pour bien faire. Dans un billet sur le site de l'Association des traducteurs littéraires français, la TLF, en 2014, l'écrivain Edith Zonkind évoquait, je la cite, un phénomène Harry Potter où les éditeurs français auraient été doublés par nombre de lecteurs français impatients de connaître la suite, qu'ils ont alors acheté en anglais, puisqu'elle n'était pas disponible en français. Aujourd'hui, des sites de lecteurs méticuleux, d'ailleurs, consacrent des pages entières aux erreurs de traduction dans Harry Potter. Et plus largement, je me suis aperçu, pas moi, que certains éditeurs faisaient parfois l'impasse sur l'étape de la correction, alors que le surcoût occasionné par la relecture ne me semble pas prohibitif en regard de la qualité du produit fini. C'est ce qu'expliquait la correctrice chère à Actualité, qui travaille, elle, pour un éditeur breton. Alors, il faudrait faudrait certainement nuancer, distinguer. Toutes les maisons ne sont pas réfractaires à ce qu'on appelle les bonnes pratiques hein, en matière d'emploi de traducteurs et correcteurs, et toutes ne publient pas à la chaîne non plus. La situation est différente aussi pour les correcteurs et les traducteurs. Les traductions, par exemple, soulignait Le Monde le mois dernier, sont même parfois l'occasion de rééditions très mises en valeur, comme La Montagne Magique chez Fayard par Claire de Oliveira, ou les traductions des éditions Actes Sud ou POL qui, je cite Le Monde, mettent un point d'honneur à inscrire le nom du traducteur sur un bandeau ou la couverture. Plus récemment, c'est le cas aussi du Vieil Homme et la Mer qui a été mis en valeur, réédité par Gallimard, traduit par Philippe Jarowski, qui en fait la préface d'ailleurs en forme d'éloge et défense de la traduction. Le résultat est stupéfiant, dit l'AFP. Le texte retrouve dans son dépouillement extrême toute sa dimension héroïque et tragique. Alors la question est double. À côté de ce qu'on pourrait appeler ces Rolls-Royce de la traduction, les livres sont-ils condamnés aujourd'hui dans ce climat à être moins bien traduits et moins bien corrigés avant, et puis un peu plus vicieux? Y a-t-il des livres qui méritent moins que d'autres d'être bien traduits?
C'est une question vicieuse. C'est plus une question économique. Vous faites référence à Harry Potter. Il me semble me souvenir que pour le dernier, au moins, il y avait plusieurs traducteurs qui traduisaient chacun des chapitres pour que ça aille plus vite. Donc, effectivement, au niveau de l'unité stylistique, on peut être large, s'interroger assez largement. Mais alors, traducteur et bien correcteur, ce ne sont pas les mêmes métiers. Hein, je n'apprends rien à personne. Par quel bout est-ce qu'on le prend? Par Elisabeth Philippe, la question de la traduction nous concerne plus directement.
C'est une question qui revient sur le devant de la scène assez régulièrement, mais je trouve que c'est assez symptomatique de ce qui se passe partout ailleurs. On pourrait aussi faire la comparaison avec la presse. On a l'impression que maintenant c'est des métiers accessoires ou périphériques. On voit qu'en termes de coûts et pas en termes de, vous parliez du produit fini ou une des personnes que vous citez parlait du produit fini et c'est au détriment effectivement du livre, je pense, que de dégrader comme ça ces métiers-là, de les sous-payer. Il y a des articles sur la possibilité de maintenant faire traduire des textes par des robots. Il y a un candidat malheureux à l'élection présidentielle qui parle de taxes sur les robots. Non, mais je crois qu'il y a une vision tellement comptable maintenant, aussi bien dans l'édition, mais je fais vraiment le parallèle avec la presse parce que je trouve que ce sont des phénomènes assez semblables. Après, on comprend pas, il y a de moins en moins de lecteurs. Ben oui, mais si ce qu'on donne à lire est de moins en moins bon, si la qualité est de moins en moins bonne, je pense qu'il y a une logique à tout ça. Donc, c'est important que ces voix se fassent entendre régulièrement. Je me souviens que les correcteurs avaient aussi fait signer une pétition, les correcteurs précaires, il y a 2 ans. C'est effectivement des métiers invisibles, mais je trouve que, quand c'est très désagréable de lire un livre où il reste des coquilles toutes les 2 lignes, où on sent les erreurs de traduction. Et c'est vrai que les retraductions que vous évoquiez sont nécessaires, et c'est souvent des redécouvertes des livres. Je me souviens de la dernière traduction de Jean-Pierre Carasso, qui avait retraduit un livre de Hubert Selby Jr., dont le titre m'échappe au moment présent, mais c'était plus que nécessaire, tant il y avait d'erreurs qui étaient faites. Donc c'est un problème important, et je pense qu'il faut soutenir ces professions.
Oui, les nouvelles traductions sont autant de nouvelles œuvres. Hein.
Oui, bien sûr.
On dit souvent que le traducteur sort presque un co-auteur, mais si on s'éloigne de la littérature vraiment proche, les traductions de Shakespeare sont toutes intéressantes, et évidemment, Bonnefoy et Markowitz,
ce sont
des œuvres absolument différentes. Là, c'est une langue poétique et l'enjeu est encore plus grand, mais c'est vrai qu'il y a quelques rééditions, nouvelles traductions sur lesquelles il y a un peu plus de projecteurs. C'était le cas de Gatsby, ou Quand c'est Marie d'Ariussec, ou des choses comme ça, avec des bonheurs différents. On en a parlé ici, on pourrait en reparler, mais il y a aussi tous ces écrivains et écrivaines, je pense à Agnès de Sarthe, à Valérie Zenati, pour qui c'est aussi un vrai métier, en dehors de leur œuvre propre, que de traduire les œuvres des autres, et qui sont des passeurs et des passeuses essentielles. Florent Georgescu.
Vous évoquez Shakespeare. Il y a une personne assez amusante qu'on voit tourner sur les réseaux sociaux qui s'appelle L'Indéprimeuse, qui a publié récemment, qui a mis en ligne récemment une traduction d'Hamlet faite automatiquement par Google.
C'est vrai.
Le titre est Jambon laissé.
Jambon laissé, Hamlet.
D'accord. Donc je pense qu'on a un tout petit peu de marge encore avant les traductions automatiques. Et et ce rêve que peuvent avoir certains, en effet, de se passer de ces coups-là, parce qu'au fond, ça compte pas, est un rêve extrêmement absurde, en effet. Mmh. On le montre par ça. Cela dit, vous êtes peut-être un peu optimiste, Elisabeth, quand vous dites que ça peut, que la mauvaise qualité peut éloigner le public. J'ai l'impression que le raisonnement économique est fondé malheureusement sur une expérience qui est que des livres torchés, si je puis me permettre,
comme vous voulez.
Merci. Sont,
vous le gardez pour vous.
Font autant de, enfin peuvent avoir autant de succès que d'autres parfaitement travaillés. Et on peut avoir l'impression, quand on fait de l'édition, qu'une part de son travail est de l'ordre de l'acte gratuit. Et qu'au fond, ça n'y changerait rien. Je vous le dis un peu d'expérience. Enfin, on a parfois le sentiment quand même que et là, on citait Harry Potter, ce sont des conditions économiques absolument uniques. Donc c'est au fond pas le plus pertinent. Mais pour une production plus courante, beaucoup de choses qui sont vraiment mal travaillées, je pense à la correction, parce que c'est en effet un sujet très intéressant important, ne rencontrent pas moins de succès, y compris auprès de nous autres, de succès de presse, que des livres qui sont parfaitement travaillés. Donc malheureusement, ça pousse une partie du métier à en tenir de moins en moins compte. Parce qu'on ne voit pas de différence quand on regarde les courbes de chiffres. Et c'est un vrai problème, ça. C'est un vrai problème qui aboutit, en effet, à une négligence du travail de correcteur, du métier de correcteur, qui est assez ruineuse pour la valeur des textes. Mais est-ce que c'est ruineux pour la valeur économique des choses? Malheureusement, je n'en suis pas certain. Et ça, c'est très inquiétant.
Xavier Martinet.
Oui, précisément, dans un deuxième problème, dans ce que vous évoquiez, Elisabeth, qui avait toujours besoin, bien sûr, de traduction pour les nouvelles œuvres, besoin de retraduction également. Je me demandais, quand on voit effectivement qu'on retraduit aujourd'hui Hemingway, qui avait une traduction, on pourrait dire, historique, française, et quand on voit pourquoi il est retraduit, c'est-à-dire parce que, notamment, je lisais dans la dépêche AFP qu'on avait fait parler à l'époque, le pêcheur Santiago avec, je cite, un accent pittoresque presque totalement absent du texte original. On voit qu'il y a eu une intention quand même délibérée de tromper cette simplicité originelle. Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de grandes œuvres historiques qui ont leur traduction historique en France et qui mériteraient aujourd'hui qu'on revienne dessus aussi voilà,
Elisabeth Philippe.
Il y a les exemples célèbres des séries noires traduites n'importe comment.
Les Hamlet, les Chandler. Très adapté,
très, très librement adapté.
Ça, le travail a largement été fait.
Oui, voilà.
Ça, oui, il y en a eu beaucoup.
Il y en a eu vraiment énormément. Je pense qu'il y a toujours le grand débat sur Moby Dick, avec la traduction de Giono. Oui, très certainement. Et puis, souvent, il y a des problèmes de droit aussi qui rentrent en ligne de compte, qui peuvent expliquer des retraductions. Je crois que c'était le cas pour tous les romans de Calvino récemment. Il me semble que c'était une question de droit. Donc oui, bien sûr qu'on peut même retraduire à l'infini. C'est ce que certains traducteurs me disaient. Après, il y en a qui sont plus ou moins justifiés. Mais il y a aussi toute une redécouverte des textes de Dostoïevski quand ils ont été retraduits.
Par souci de réinterprétation et de clarification, en fait.
Et aussi, il y a des effets d'époque. Et donc de mode.
Oui, qui valent pour aujourd'hui.
On peut aussi, pour prolonger votre question, Xavier, imaginer les textes qu'on vient de retraduire et qui auront besoin d'être traduits dans 20 ans,
évident.
Parce qu'on les a simplement soumis à une mode stylistique ou à une mode interprétative.
Qui nous semble absolument objective et qui n'est évidemment pas.
Mais il y a aussi une professionnalisation.
C'est toujours la naïveté du présent.
C'est la naïveté du présent.
Ça sera peut-être moins en moins nécessaire, étant donné aussi la professionnalisation des traducteurs, qui est quand même, somme toute, assez récente.
Oui, ça, c'est un fait. C'est vrai qu'il y avait une liberté dans la traduction il y a 50 ans qu'on n'a sans doute plus aujourd'hui. Mais il y a quand même, pour parler de manière pédante, il y a une épistémée d'époque. Enfin, il y a une manière de penser le texte qui peut n'appartenir qu'à une époque et qui peut faire, dans certains cas, ça peut être un effet pervers, cette professionnalisation. Il faut parfois se méfier d'une réflexion trop poussée. Écoutez, on ne sait pas l'heure d'ouvrir un vaste débat sur certains sujets brûlants, mais moi, je n'ai jamais été convaincu, par exemple, par le corpus théorique de Markovitch dans ses traductions de Dostoïevski. Voilà, le rapport à la langue étant à la langue russe en l'occurrence et à ce qui doit en passer dans la langue française est un problème théorique qu'il traduit concrètement dans ses traductions avec un immense talent et un immense professionnalisme évidemment, mais on peut aussi renverser certains de ces principes théoriques au point de se demander si, si finalement, ce qui a été mon cas, pour tout dire, il ne vaut pas mieux revenir à des traductions anciennes où un voile que une théorisation, à mon avis, parfois abusive, jette sur le texte, où ce voile disparaît, où enfin, finalement, et paradoxalement peut-être, on retrouve un tout petit peu plus la puissance des textes.
En attendant les prochaines traductions. Oui, mais je suis d'accord avec vous, je l'ai d'ailleurs souvent posé aussi. La question aussi, c'est une émission de théâtre aussi dont on en parle souvent, que ce soit toujours les traductions de Markovitch. Oui. Au détriment au théâtre, de toutes les autres. Sur Shakespeare, il y a la guerre d'Épra Markovitch, mais sur les Russes notamment, c'est vrai que pourquoi ne devrait-on toujours se référer à tel ou tel traducteur, aussi talentueux soit-il ou soit-elle, c'est pas la question. Bon, ces questions sont loin d'être refermées, on sera amené à en reparler. Et d'ailleurs, post-scriptum, on reparlera de ces communautés de traduction quand on parlera de l'ubérisation des sous-titres chez Netflix, mais ça sera dans une émission consacrée aux séries. Non, mais c'est ça aussi, parce que les communautés de traduction, ça donne aussi des choses assez savoureuses. Mais jambon laissé, ça, c'est inscrit, je le garde pour moi. Deuxième livre, allez, à notre sommaire. Une découverte, des nouvelles, voilà, de Francis Scott Fitzgerald, 16 nouvelles très précisément, et deux ébauches de scénarii, publiées en France par Grasset et Fayard, traduction Marc Anfreville, postface Anne-Margaret Daniel, sous le titre « Je me tuerai pour vous », c'est du conditionnel, donc il y a un S, titre d'une des nouvelles de ce recueil.
Everybody's got to sing, ooh, ooh, wahoo, now you're singing with a swing. Sing, 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 everybody's got to sing, ooh, ooh, wahoo, now you're singing with a swing. When the music goes around, everybody goes to town, but here's something you should know, oh, baby, oh. Sing, 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 everybody's got to sing, ooh, ooh, wahoo. Now you're singing with a swing. Swing, 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 swing. Listen to the trumpet swing. Blow, 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 blow. Listen to the trombones go. When the music goes around.
Alors, dans le cas d'inédit d'un auteur mort depuis quand même près de 80 ans, on est quand même toujours en droit de se demander si ce sont là des pépites ou des miettes, d'autant qu'il s'agit là de textes refusés par des revues auxquelles Francis Scott Fitzgerald collaborait régulièrement. Dire aussi que les textes qui composent ce recueil, du coup, ont été écrits du milieu à la fin des années 30, c'est-à-dire vers la fin de sa vie, ce qui n'est pas la question, mais surtout un moment où l'écrivain a besoin d'argent, on le sait beaucoup, parce que Zelda est internée, il faut payer la clinique psychiatrique, Scotty scolarisé, il faut payer l'école, et que on sait bien par sa correspondance, et d'ailleurs il y a beaucoup d'extraits assez lumineux à ce sujet dans la postface de cette édition, que Fitzgerald est quand même tiraillé entre foi et nécessité, pourrait-on dire. Elisabeth Philippe, sur ce recueil, je me tuerai pour vous, pas de coquille, c'est bien.
C'est bien conditionnel.
Bien conditionnel, il y a un S à la fin.
Un titre très alléchant, très fitzgeraldien. Fitzgerald, ouais. Des nouvelles inédites, un lancement mondial.
On se jette dessus.
Autant d'éléments qui font qu'on se jette dessus. Et je dois avouer que pour ma part, peut-être que la déception
de la hauteur
de l'attente, mais. Si la plupart de ces nouvelles ont été refusées, on comprend en partie pourquoi. Si Scott Fitzgerald a eu tant de problèmes à Hollywood et n'a jamais a connu un échec cuisant, on comprend aussi pourquoi, à la lecture des ébauches de scénarii. Non, j'avoue que j'ai été très très déçue. C'est énormément de nouvelles qui fonctionnent un peu comme des comédies burlesques, mais avec fondées sur des quiproquos totalement absurdes. Alors on trouve tous les éléments que vous avez évoqués, Arnaud, la maladie effectivement de Zelda. Bon, il y a beaucoup de nouvelles qui se situent dans un milieu médical, dont une dans un hôpital psychiatrique. C'est assez rigolo, mais c'est quand même du mauvais Billy Wilder. Enfin, on imagine ça en film. Il y a un problème de rythme, il y a un problème de langue, je trouve, un problème d'écriture. On sent effectivement ce... D'ailleurs, Fitzgerald lui-même, dans ces extraits de correspondance que vous évoquiez, a peur de faire de la Camelot et d'écrire un peu en pilote automatique. Je trouve que c'est le cas et que ça se sent, ça se lit, ça se voit. Les scénarios, alors là, c'est vraiment encore plus mauvais, si je puis dire, c'est encore pire. Notamment Une femme à la mer, où on se retrouve quand même avec des scènes où il y a un bébé qui, je sais pas comment un bébé peut faire autant de choses, si vraiment c'est un bébé, puisqu'il se retrouve pris dans les cordes d'une harpe sur scène. Enfin, c'est absurde.
Vous n'avez jamais essayé de grimper sur une harpe, vous?
Je vous
elle l'a fait en plus tard,
voilà, elle était bébé. Plus tard, pas bébé, bien
sûr. J'ai
vu
une vidéo sur YouTube, non plus.
L'autre, Chausson de danse, donc certainement inspiré par les velléités. Bon, pour moi, c'est ça le truc le plus drôle. C'est quand même que Zelda, à 27 ans, pensait qu'elle pouvait encore devenir danseuse classique. Donc
il a voulu faire ses chaussons rouges. Hein.
Voilà. C'est une mauvaise Chaplin, là, cette fois-ci. Non, j'avoue que c'était très pénible à lire. Alors parfois, c'est tellement pénible. Il y a une nouvelle sur la guerre de sécession. Eh bien, il y a son doublon, il y a une variante. Alors, à un moment, soit c'est une histoire de vengeance, soit il y a une histoire de faux indiens.
Il essaye de la refourguer, oui.
Non, mais c'est complètement invraisemblable. Pour sauver un peu ces nouvelles, je dirais qu'on retrouve par moments des éclats de ce qui peut faire le charme de Fitzgerald, notamment dans une des nouvelles qui se passe parmi les hobos. Ça s'appelle Voyager ensemble, je crois, dans un train. Et puis il y a cette jeune fille, il la décrit juste avec une petite notation. Il parle de son sourire, pareil, à une petite falaise. Bon, moi, c'est le genre d'éclat, de fragments qui peut me mettre en joie et suffire à... Mais bon, peut-être pas rattraper 500 pages. Non, je dois avouer que c'est une déception pour moi.
C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce type d'éclat lui échappe un petit peu, qu'il ne peut pas quand même tout à fait empêcher sa plume de livrer quand même quelques belles phrases. Mais c'est quand même cette nécessité qu'il faut rappeler de happy end, enfin de conclusion heureuse, optimiste, joyeuse. Hein. C'est pour des revues très particulières et il faut que le lecteur soit content. Et donc justement, si certaines, moi, m'ont un peu plus attrapé que d'autres, c'est vrai que les résolutions sont à l'évidence totalement bâclées. Il faut absolument finir bien, donc il le fait, mais tellement mauvaise grâce, ça a un effet comique, mais un peu rébarbatif, effectivement, au bout de 16, on va dire, même avant. Florent Georgescu.
Oui, écoutez, je suis entièrement d'accord avec vous deux, donc j'ajouterai...
Vous avez bien des choses à ajouter.
J'ajouterai et contredirai sur 3 ou 4, il y en a quand même qui sont meilleurs que ça.
Il y en a qui m'ont accroché, celle qui donne son titre, notamment.
Oui, celle qui donne son titre.
C'est pas tout à fait hasard, quand même.
Oui, et au fond, si on avait sorti un petit livre volume avec ça, ça aurait été une découverte magnifique.
Et la perle événement. Et la fourrure aussi.
Exactement. Oui. Nous avons le même panthéon. La perle et la fourrure est une nouvelle très amusante. Et la dernière aussi, le couple.
Oui.
Cette histoire d'un couple qui est au bord du divorce et qui
bon, on en sauve 3,
avait
mal,
lancé
déjà.
Le recrutement d'un couple de domestiques qui s'avère calamiteux.
Et la première est assez rigolote pour la mise en abîme d'Hollywood aussi.
Oui.
Voilà, mais plus légère. Mais
en tout cas, la nouvelle qui s'appelle Je me tuerai pour vous une puissance, grâce, une force qui on retrouve là par moment. Là, c'est vraiment ce miracle qu'on a laissé croire en sortant ce volume du vrai Fitzgerald, vraiment inédit, avec un personnage d'ailleurs tellement fitzgeraldien de vieux, enfin vieux, il n'est pas vieux, mais de séducteur avec une réputation sulfureuse et qui dit quelque chose d'ailleurs que à ce moment-là, sans doute, puisque comme vous le disiez Arnaud, on est vers la fin de la vie de Fitzgerald, il dit quelque chose que lui aurait pu dire. J'avais ma place à une époque où les gens recherchaient avant tout l'excitation du moment et moi je tentais de le leur donner. Je dépensais beaucoup d'argent, je finançais des pièces de théâtre, j'essayais de traverser l'Atlantique en avion ou de mettre à sec toutes les caves à vin de Paris. Ce genre de choses, tout cela sans but. Et c'est la raison pour laquelle cela paraît si démodé aujourd'hui. Je n'avais rien de précis en tête.
Ouais.
Voilà, là, on est à nouveau dans ce qu'on aime et dans ce qui valait la peine de ressortir 80 ans après. Mais alors, il y a un autre problème pour moi, c'est l'édition même de ce volume qui est calamiteuse. L'intérêt de sortir ces 18 textes dont la plupart sont sans intérêt est un intérêt de pure érudition. Or, nous avons une édition où il n'y a pas une seule date pour une seule des nouvelles.
Qui ne suis pas fou non plus, je disais Catherine de Couverture, mais des préfaces non plus, là, il y en avait une qui s'imposait.
Mais bien sûr, d'autant que la postface, qui est celle de l'éditrice américaine du livre, est elle-même d'une médiocrité insigne. Il n'y a absolument pas un mot intéressant sur l'œuvre de Fitzgerald.
Il n'y a pas de perspective critique.
Les citations
elle-même
sont bonnes.
Elle n'est pas convaincue des nouvelles.
Non, mais elle n'en parle pas, par ailleurs. Elle est si peu convaincue qu'elle n'en dit rien.
Il n'y a pas de regard critique du tout.
Les citations sont bonnes dans cette postface, comme vous le disiez, Arnaud, c'est-à-dire les bouts de lettres.
On se raccroche à ça, oui.
Mais bon, il n'y a rien dans cette postface.
Elle est longue, en plus, cette postface, pour rien dire.
Pour le coup, il fallait un appareil critique. Ouais. Ça ne sert à rien de balancer ça pour tous les lecteurs. Quelqu'un qui découvrirait Fitzgerald à travers ça.
Il n'y aurait pas d'autre.
Nous n'oserons plus sortir dans la rue. nous n'oserons plus dire à des gens qui n'auraient lu que là-dedans que nous admirons Fitzgerald. Ouais, ouais. Il n'y a qu'une édition universitaire de ces textes qui aurait valu la peine. Vous citiez ce doublon qui est en soi intellectuellement amusant. Pourquoi a-t-il la nouvelle n'est pas très intéressante malheureusement, mais voir ce qu'a voulu faire Fitzgerald. Pourquoi il a fait c'est même pas deux fins d'ailleurs, c'est au milieu de la nouvelle. Il y a déjà des variantes pour un récit qui commence de la même manière dans les deux cas, et puis tout à coup le récit lui-même bifurque dans la deuxième. Pourquoi a-t-il fait ça? À quel moment? Qu'est-ce qu'il avait en tête? Pas un mot sur ça. Ça n'a strictement aucun intérêt de publier ça sous cette forme. Voilà.
Bon. Nous sommes d'accord. Bon, ben voilà qui est dit. Je me tuerai pour vous. On ne se tuera pas pour se procurer le livre, on a compris. Même si nous avons fait notre top 3, ce qui est déjà pas mal, mais enfin sur 16 textes, 18 textes, ça fait quand même peu. Donc c'est coédité par Grasset et Fayard, et c'est une traduction de Marc Anfreville, qui a dû connaître des jours meilleurs dans sa vie riche. C'est un excellent traducteur, Marc Anfreville.
Les dialogues sont pas sauvables.
Oui, non. Mais aussi bon ce traducteur soit-on, on peut traduire.
On parlait de ce métier, c'est un métier très dur qui ne consiste pas tout de même à sauver un texte qui ne peut pas l'être.
Absolument.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et le troisième sujet de cette dispute littéraire, c'est toujours un livre en édition de poche. Ce soir, L'Orange mécanique d'Anthony Burgess chez Robert Laffont en pavillon poche, dans une traduction historique, celle de Georges Belmont et Hortense Chabrier. Édition anniversaire, enrichie avec une postface inédite de l'auteur. Alors, je ne sais pas bien de quel anniversaire il s'agit.
Le centenaire de la naissance.
Ah d'accord, parce que je dis, bon, le roman il était publié en 62, le film Kubrick c'est 71, donc je ne voyais pas, heureusement que vous êtes là. C'était le 8e roman d'Anthony Burgess, qui écrivait beaucoup à l'époque, et qui a toujours d'ailleurs beaucoup écrit. On rappelle que l'action de ce livre se situe à Londres, dans un avenir qui semblait alors très proche, qu'on va suivre un très jeune délinquant, parce que on a les images du film, mais dans le livre, il a 16 ans, le jeune Alex, avec sa bande de droguises, qui passe son temps à boire, à voler, à violer, à torturer. Alex qui va être arrêté, qui va servir de cobaye à un traitement assez terrible qui le rendra malade face à la violence et au sexe. Ce sera quoi, hein? Il y avait moi, autrement dit Alex, et mes trois drougues, autrement dit Pierrot, Joe et Momo, vraiment Momo le Momo, et on était assis au Corova Milk Bar à se creuser le rassodoc pour savoir ce qu'on ferait de la soirée. Une putain de soirée d'hiver, branque, noire et glaciale, mais sans eau. Le Corova Milk Bar, c'est un de ces mestotes où on servait du lait gonflé, et peut-être avez-vous oublié, oh mes frères, à quoi ressemblait ce genre de mestote. Tellement de choses changent, zoom par les temps qui courent, et tellement on a vite fait d'oublier, vu aussi qu'on ne lit plus guère les journaux. Bref, ce qu'on y vendait, c'était du lait gonflé à autre chose. Le Corova n'avait pas de licence pour la vente de l'alcool, mais il n'existait pas encore de loi interdisant d'injecter de ces nouvelles vesques qu'on mettait à l'époque dans le Moloco des familles, ce qui faisait qu'on pouvait se drinker avec de la Vélocette, du Saint-Émesque, du Metzcat, et une ou deux autres vesques, mais s'offrir 15 gentilles minutes, pépère, zaribles, admirer Gogre et tous ses anges et ses saints dans son soulier gauche, le mosgue peint à péter les lumières, ou alors drinker du lait au couteau, comme on appelait ça, façon de s'affûter et de se mettre en forme, pour une petite partie salingue de 20 contre 1, et c'était justement ce qu'on drinkait le soir, par où je commence cette histoire. C'est ainsi que débute. Bravo. Merci Florent Jargesco d'avoir apporté votre exemplaire, j'avais oublié le mien. Mais pour entendre un tout petit peu de cette langue, je rassure tous les auditrices et auditeurs qui n'ont jamais lu Orange Mécanique, il y a un glossaire fort, fort long, un lexique tout à fait long à la fin de l'édition de ce livre. Alors c'est l'édition d'origine, hein, 72 me semble-t-il. Pour l'édition française, oui. Qui suit la sortie du film de Stanley Kubrick, qui lui a peut-être beaucoup marqué. C'est vrai que c'est moi qui vous ai proposé de parler de cette édition poche cette semaine, parce qu'il me semble que c'est un grand livre qui est peut-être pas forcément, qui a peut-être pas forcément été beaucoup lu. Elisabeth Philippe, sur l'Orange Mécanique.
C'est un grand livre. On parlait de traduction à l'instant. La traduction, ça devait être un sacré, déjà, sacré défi que de traduire cette langue en partie inventée. Et l'invention lexicale, langagière dont fait preuve Burgess, qui était également linguiste. Je crois qu'il a écrit des essais en plus sur Joyce, sur Shakespeare, est toujours aussi éclatante et époustouflante. Et c'est presque une mise en abîme du traitement auquel est soumis le héros, Alex, qui est donc, pour être soigné de sa violence extrême, subit donc ce traitement ludovico, ouais. À base de conditionnement. On lui fait regarder des films extrêmement violents pour qu'il développe une aversion physique à la violence. Et dans la postface de Burgess qui est présente dans cette édition, Burgess explique que après avoir lu son livre, tous les lecteurs auront des bases de russe, puisque cette langue qu'il a créée est formée sur des mots russes, et pas seulement, il y a des trouvailles. Donc en français, ça donne, par exemple pour les cigarettes, des cancérettes. J'aime énormément ce petit mot de cancérette, drinker, etc. Et effectivement,
le Gulliver.
Le Gulliver, il y a la babouchka. Donc c'est assez amusant, cette histoire de conditionnement par la langue, par l'écriture, qui fait écho au conditionnement par le visionnage de films auquel est soumis le héros. Et de toute façon, il y a tout un jeu de mise en abîme, puisqu'il y a également le livre L'Orange Mécanique, c'est le livre sur lequel tombe Alex lors d'une de ces soirées de violence, d'ultra-violence, de razzia chez un couple de bourgeois. Et évidemment, tout le propos du texte, qui finalement peut-être moins fort, moi je trouve, qui n'a rien perdu de sa pertinence, mais qu'on a pu lire et relire dans d'autres romans et textes depuis, ce qui reste vraiment, et qui reste, je trouve, assez inédit et très très fort, c'est cette langue totalement inventée. Et donc le propos du livre, c'est oui, la violence. L'État n'a pour solution que la traiter par la violence. Donc la violence d'État face à la violence des individus. Bon, il y a tout ce constat-là qui est fait dans le roman. C'est évidemment une réflexion intéressante, mais encore une fois, je pense que ce qui reste vraiment de très très fort dans ce livre, c'est
l'expérience de lecture, pour le coup, véritablement. Florent Jorgesco, sur L'Orange Mécanique.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a un propos. Burgess, dans cette postface, dit que ce livre est une parabole pour lui. C'est un livre à message. Et d'ailleurs, l'écrivain dans le livre, auteur de L'Orange Mécanique, en fait, écrit un essai. On voit à un moment Alex, juste avant de torturer cet homme, jeter un œil sur son texte et le citer dans le roman. Et c'est un texte théorique sur l'individu, sur la préservation de la liberté individuelle. Et Burgess explique que, pour lui, il montre une violence extrême en voulant donner le dégoût moins de cette violence que du traitement qu'on inflige, parce qu'il dit que cette violence est encore de la liberté individuelle, alors qu'en face, l'État peut vouloir briser cette liberté individuelle et que c'est un mal plus grand. C'est le livre date des années 60-70. On est à une époque où le
début
des
années 60, hein. Il sort en 61 ou 62 dans son édition originale, donc il est vraiment pas en retard. Hein.
Mais on est aussi dans une époque où on a en face un bloc totalitaire. On a une époque où la crainte de la massification fait créer une panique devant toute forme d'autorité. Et au fond, le livre n'a pas vieilli parce qu'il l'échappe au discours. Ce qu'il montre, c'est plutôt dans le comportement d'Alex et au fond aussi de ses bourreaux, de ceux qui le soignent et qui dont il s'amuse à montrer les penchants sadiques. On voit qu'ils prennent eux autant de plaisir à torturer pour son bien, pour le bien de la société, ce pauvre Alex, le humble martyr comme il s'appelle lui-même. Ils prennent autant de plaisir que lui en prend dans ses razzias, dans ses viols, dans ses massacres. Et au fond, ça finit par être un livre sur le contraire de ce que voulait montrer Burgess. C'est plutôt sur l'éclatement absolu d'une société qui devient violente par cet éclatement, qui est la société du petit groupe d'Alex et de ses copains, de ses droguis. Parce que, par ailleurs, en effet, il y a relire ça, c'est redécouvrir une langue, enfin, c'est faire une expérience avec la langue. Vous parliez du lexique qu'il y a à la fin. Je crois vraiment qu'il est utile de ne pas lire ce lexique. Alors on comprend.
On peut se rassurer au début.
Oui, on se rassure. Mais il faut le lâcher.
Mais après,
de toute façon,
lâcher.
Sinon, c'est invivable. On met trois mois à lire ce livre. Mais par ailleurs, s'y perdre un tout petit peu n'est pas bien grave.
Fait partie d'expérience.
On suit tout. Mm-hmm. Et entrer dans ce vocabulaire, suivre ça comme, et faire sien, en quelque sorte, faire sienne cette langue, c'est devenir Alex. À la toute fin du livre, il fait ses adieux au lecteur en. Alex, qui est donc narrateur du livre, en disant « Souvenez-vous de temps en temps du petit Alex qui était vôtre ». Le point auquel il est nôtre, le point auquel on a du Alex dans la tête à force de lire cette langue qui n'appartient qu'à lui, qui n'appartient qu'à ce livre et donc qu'à ce personnage, cette manière d'absorber Alex en soi est tout à fait terrifiante. Et on s'aperçoit que peut bouger dans notre tête une espèce de petit bonhomme monstrueux qu'est Alex, et c'est par cette langue que ça passe.
Ça passe par cette langue, et on peut s'identifier d'autant plus que Alex n'est pas un monstre monolithique. C'est un jeune garçon qui aime aussi s'étendre dans son lit et certes l'écouter à fond, mais écouter Ludwig van, comme il l'appelle, à fond et qui est en transe et qui en veut à ses bourreaux qui vont aussi lui dégoûter de la violence de la musique. Et c'est ce que dit Burgess après aussi. Oui, parce que les nazis, ils écoutaient Beethoven. Donc, ils écoutaient également Beethoven. Donc, il y a cette espèce de dualité. C'est pas du tout quelque chose de monolithique et c'est ce qui fait aussi de ce livre une réflexion un peu plus ambiguë et intéressante que une simple dénonciation de la violence.
Mais comme l'était d'ailleurs le film. C'est, peut-être que ce livre n'est pas assez lu aujourd'hui parce qu'il se trouve qu'un autre chef-d'œuvre en est sorti et que tout le monde
tout
a l'impression
mal compris.
Qui est inépuisable aussi. Donc, mais je crois que ce qui vaut dans la lecture de ce roman aujourd'hui, alors qu'on a pu revoir 20 fois le film de Kubrick, c'est l'expérience que du coup on fait avec cette langue, pas pour admirer le savoir-faire de Burgess, qui est immense par ailleurs, mais pour avoir ce trouble de plus en plus grand de sentir que Alex déconstruit notre propre représentation du monde à travers cette langue aliénée, cette langue où il n'y a plus le bon mot pour nommer les choses, cette manière de perdre le réel parce que les mots le perdent. On y participe et ça devient une expérience fascinante.
Comme vous en avez bien parlé, merci à vous d'avoir si bien parlé de L'Orange mécanique d'Anthony Burgess, qui reparaît chez Robert Laffont en Pavillon Poche, traduction Georges Belmont, Hortense Chabrier. Nous concluons par le jeu de la dispute. Justine Dibling, d'abord vous allez nous rappeler la question d'hier et donner la réponse.
En quelle année Arthur Robin, l'homme le plus fort du monde, a gagné le titre de Monsieur Univers? Et la réponse était en 1957.
Et on fait gagner ce soir des invitations pour l'exposition Magnum Analogue Recovery à découvrir jusqu'au 27 août au Bal à Paris. La question, Justine?
Quels photographes ont fondé l'agence Magnum Photo en 1947?
Et on veut tous les noms. Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Rendez-vous lundi soir à 21h pour une dispute consacrée au spectacle vivant. Nous serons avec Marie-Josée Sirach, Anna Segalevitch à notre affiche Songe et Métamorphose d'après Shakespeare et Ovid, création de Guillaume Vincent, Les Oiseaux d'Aristophane, nouvelle traduction d'Agathe Mélinan, mise en scène par Laurent Pelli. Nous évoquerons aussi l'opéra Voïtsek d'après le Voïtsek de Büchner, mise en scène par Christophe Martaler, cet opéra d'Alban Berg à l'opéra Bastille, et puis le livre Le Théâtre de Jean Genet, livre d'Olivier Neveu, et puis Boris Pinot passera un coup de fil à Joris Mathieu, le metteur en scène et directeur du théâtre Nouvelle Génération de Lyon pour son nouveau spectacle. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture à 22h15, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.